déjà fait le serment cette nuit. Comme, du coup, j'ai amené un instrument métallique pour qu'on soit soulevé de terre. Et je voulais juste simplement lire quelques petits passages à propos de Jean-Baptiste. On ne sait pas trop, hein, là, c'est bien, en quelques petits passages. Ben, de la tradition des saints. Les saints ont vu... C'est ça qui est beau dans la communion des saints. C'est les saints, quelquefois, ils ont des comme ça, des torrents de colonnes prophétiques de lumière qui font qu'ils sont... Et ils voient ce que Dieu voit, et voilà. Et donc ça arrive, les saints, quelques saints nous donnent ce qui se passe dans la vie des saints. C'est canonisé par l'Église, évidemment. Là, ici, je prends quelques petits passages comme ça, je ne sais pas, il y en a tellement. À propos de la conception de Jean-Baptiste. La conception de Jean-Baptiste. Je lis tout simplement, vous allez reconnaître bien sûr, Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Pendant 3 jours et demi, il rentra au temple de Jérusalem. Il était avec tous ses prêtres. Il attendait jusqu'à ce que vienne son tour d'offrir le sacrifice. C'était le fameux Hoshana Rabba. C'est pour ça qu'on connaît exactement le jour, l'heure et la date de la conception de Jean-Baptiste. Donc chaque année, une fois par an, l'absolution était donnée à tous les péchés du monde. Par le ministère du Messie qui n'était pas encore venu, mais par le sang de l'agneau qui était sacramentellement ordonné, selon l'ordre de Melchizedek, mais transmis par le sacerdoce lévitique d'Aaron. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Yom Kippour, par exemple. Kippour, c'est le pardon, c'est l'absolution. Kippour, c'est le pardon. Une fois par an, au hasard, il y en a un qui rentre dans le Saint des Saints, qui fait 7 fois le tour de l'hôtel dans le Saint des Saints, en prononçant le nom d'Élohim. Il allume l'encens, et tout seul, c'est le seul qui puisse pénétrer, il a les 8 vêtements du Messie. Il a recouvert 8 fois de vêtements en chasuble, ça c'est plutôt. Il a sur lui le nom d'Élohim à 42 lettres. Vous avez déjà vu le petit carré là. Donc Zacharie a le nom d'Elohim à 42 lettres. Ab Elohim, Ben Elohim, Roha Kadash Elohim. C'est moche. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, 1 en 3, 3 en 1. Et cette année-là, c'est un pauvre vieux prêtre, méprisé. Mais enfin, c'est lui qui offre l'encens ce jour-là, c'est lui qui a été tiré au sort. Donc voici que pendant ce temps, ces 3 jours et demi, il priait continuellement dans le temple. Il vint à son tour de présenter l'encens et je le vis entrer dans le sanctuaire où se trouvait l'autel des parfums, devant l'entrée du Kadosh HaKadesh, du Beth Amidash, du Saint des Saints, ça veut dire. Le toit était ouvert au-dessus de lui, en sorte qu'on pouvait voir le ciel. On ne pouvait pas apercevoir le prêtre du dehors. Quand Zacharie entra, un autre prêtre lui dit la parole rituelle. Il lui dit « Allume l'encens », comme l'explique la Mishnah. Et il se retira ensuite et Zacharie fut seul. Alors je le vis lever un rideau, entrer dans le lieu sanctissime où il faisait sombre. Il prit là quelque chose qu'il plaça sur l'autel. Il alluma l'encens, et je vis alors à droite de l'autel une lumière descendre sur lui, et une forme brillante s'approcher de lui. Je le vis effrayé, ravi en extase. Il tomba du côté droit de l'autel. Et l'ange le releva, il lui parla longtemps, et Zacharie répondit. Et je vis au-dessus de Zacharie le ciel ouvert. Et avec l'ange, 2 anges montaient et descendaient comme sur une échelle. Sa ceinture était détachée, sa robe était ouverte. Et je vis que l'ange semblait retirer quelque chose de son corps. Exactement comme pour Abraham. Tandis que l'autre, de l'autre main angélique, il lui mettait dans le côté comme un tout petit objet lumineux. C'était quelque chose de semblable à ce qui se passa lorsque Joachim, le père de la Vierge Marie, lorsqu'il reçut la bénédiction de l'ange pour la conception de la Sainte Vierge. Les prêtres avaient coutume de sortir du sanctuaire aussitôt après avoir allumé l'encens. Et comme Zacharie tardait beaucoup à revenir, le peuple qui priait dehors était inquiet, mais il était devenu muet. Et je le vis écrire sur une tablette avant de sortir. Alors, puisque ici elle dit quelque chose de très beau, que c'est la même chose qu'avec Joachim, je vous fais la description maintenant de Joachim. C'est la même chose qui s'est passée pour les deux. Et à peu près au même endroit, parce qu'en effet, comme je vais vous le lire, je vis que quoique l'offrande de Joachim n'avait pas été acceptée la dernière fois, le prêtre avait été averti par une inspiration céleste d'en haut qu'il devait recevoir l'offrande. Et lorsqu'il fit annoncer son arrivée avec des victimes, j'en vis quelques-uns aller à sa rencontre devant le temple recevoir ses dons. Lorsque là, donc, il rentre dans le temple, il est introduit par les prêtres à l'intérieur du temple de l'autel de l'encens. Suivant la tradition juive, même dans l'Holocauste, plusieurs parties, notamment les nerfs, la hanche, celui de la lutte de Jacob avec l'ange, touché par celui-ci, n'étaient pas brûlés sur l'autel. Donc, lorsque la fumée de l'encens s'éleva, je vis comme un rayon de lumière tomber sur le prêtre qu'il offrait dans le sanctuaire. Et ce même rayon était sur Joachim qui était là. Et il fut amené, du coup, par lui à l'autel de l'encens. Le prêtre plaça quelque chose sur l'autel. Je vis cela non pas comme des grains d'encens séparés, mais comme une masse compacte, et je ne sais plus de quoi se composait. Cette masse se consuma, produisant une grande fumée, répandant un parfum agréable sur l'autel d'or de l'encens, devant le voile du Kadosh et Kadesh du Bethel Agmitash, et je vis alors le prêtre quitter le sanctuaire et laisser Joachim seul. C'était pas habituel, ça. Ça se faisait pas, ça. Pendant que l'encens se consumait, je vis Joachim en extase, agenouillé et les bras étendus. Puis, oui, exactement la même chose. Dans une forme brillante, l'ange apparaît près de lui, comme plus tard auprès de Zacharie, après la promesse du précurseur. Il lui donna un écrit, sur lequel je pus lire en lettres lumineuses le nom. Le nom qui était écrit sur la tablette de Joachim, de Elia. Elia Joachim, c'était Myriam. Mais le nom qui était écrit pour Zacharie, c'était Yohan. Et près de ce nom, je vis l'image d'une petite arche d'alliance, d'un tabernacle. Il plaça cet écrit sous ses habits, sur sa poitrine. L'ange lui dit que sa stérilité n'était pas pour lui une honte, mais une gloire. Car ce que sa épouse allait concevoir devait être un fruit béni, divin, une bénédiction céleste pour tous les temps. Et le couronnement de la bénédiction d'Abraham, et un surgissement, l'accomplissement de la bénédiction retirée à Adam. Lorsque, comme Joachim ne pouvait pas comprendre cela, l'ange le conduisit derrière le rideau, qui était assez éloigné de la grille du Kadosh à Kadesh, pour qu'on puisse y placer. L'ange s'approcha de l'arche d'alliance et me sembla qu'il en retirait quelque chose. Et je le vis alors présenter au Père enfant un globe ou un cercle lumineux, lui ordonnai d'y souffler et de regarder. Et je vis sous le souffle de Joachim diverses images se montrer dans le cercle lumineux. Comme son haleine ne l'avait pas ternie, l'ange lui dit que cette conception serait aussi pure que ce globe qui aussi pur que ce globe était resté pur sous le souffle qu'il avait apporté sur lui dans le souffle de la bénédiction dans laquelle il se trouvait. Je vis ensuite l'ange élever le globe lumineux qui resta suspendu en l'air, et je vis comme par une ouverture une série de tableaux liés ensemble et s'étendant de la chute de l'homme à sa rédemption. Il y avait là tout un monde où les choses naissaient les unes des autres. J'eus connaissance de tout et je ne pus plus donner les détails. En haut, tout au sommet, je vis la très sainte Trinité au-dessous, d'un côté le paradis, Adam et Ève, la chute originelle, la promesse, la rédemption, toutes les figures qu'il annonçait d'avance, Noé, le déluge, l'arche, la bénédiction donnée à Abraham, la transmission de cette bénédiction à son fils, à Isaac, à Jacob, et aussi quand il fut retiré à Jacob par l'ange avec lequel il était, comment il passa à Joseph en Égypte, et se montra dans lui, et dans sa femme avec un plus haut degré de dignité, et comment la chose sanctissime où reposait la bénédiction enlevée des îles par Moïse avec les reliques de Joseph et d'Asenet, son épouse, devint le Kadosh Akadesh de l'Arche d'Alliance, le siège du Dieu vivant au milieu de son peuple. Et puis j'ai vu le culte et la vie du peuple de Dieu dans leur rapport avec cette bénédiction et ce mystère, les dispositions et les combinaisons pour le développement de la race sainte, de la lignée qui devait aboutir à la grande sainteté du corps mystique du peuple nouveau de l'Église de Jésus, qui devait venir comme rédempteur du monde entier, ainsi que toutes ses figures et symboles. J'ai vu aussi les symboles de Marie, de son mariage, et du rédempteur qui devait venir dans l'histoire des prophètes. Je vis tout cela en tableau symbolique, dans la circonférence lumineuse. Je vis de grandes villes, des tours, des palais, des trônes, des portes, des jardins, des fleurs, et toutes ces images merveilleusement liées entre elles comme par des ponts de lumière. Tout cela était comme attaqué et assailli par des bêtes furieuses et d'autres apparitions terribles. Et tous ces tableaux faisaient voir comment la lignée de la bénédiction aboutissait là à une conception qui venait du temps. De cette bénédiction et du ciel. Il semblait qu'une chair sans tache, un sang de toute pureté, avait été placée par Dieu au milieu de l'humanité en cette bénédiction comme dans un fleuve d'eau trouble. Et devaient avec beaucoup de peine et d'effort réunir leurs éléments dispersés pendant que le fleuve tâchait de les attirer à lui et de les ternir. Mais enfin, avec l'aide des grâces innombrables de Dieu et de la coopération fidèle des justes, en raison de leur virginité, de la chasteté de leur foi et de leur vie, cela devait, après bien des obscurcissements et des purifications, subsister, se renouveler sans cesse malgré les flots ternis du fleuve et s'élever enfin hors de ce fleuve sous la forme de la sainteté de ses conceptions parfaites, de laquelle est né le Verbe qui se posa sur lui. Parmi les images que je vis dans le globe lumineux, il y a des tableaux qui se développaient jusqu'à l'accomplissement parfait de la miséricorde divine envers l'humanité tombée dans une division et un déchirement infini. Ils allaient du côté du globe lumineux opposé à celle où le paradis aboutit à la Jérusalem céleste, au pied du trône de Dieu. Lorsque je vis tout cela, le globe lumineux sur lequel n'était autre chose que la série de la lumière qui s'introduisait et qui était contenue comme germe dans la bénédiction introduite dans son sein, partait d'un point et revenant après avoir formé un sac de lumière s'évanouit. Ce fut une révélation qui fut faite au Père du Grand Saint. C'est vrai. Il en eut ainsi connaissance. D'ailleurs, moi-même, quand je reçois une communication de ce genre, elle m'apparaît toujours sous forme de cette bulle lumineuse dans laquelle je suis introduit pour tout voir. Je vis ensuite l'ange marquer ou oindre le front du Père avec le pouce et l'index, puis lui faire manger d'un aliment lumineux et lui faire boire d'un liquide transparent contenu dans une petite coupe brillante qu'il tenait avec deux doigts. Il s'en est passé dans un dessin là, des choses. Elle était de la forme du calice de la Sainte Seine, mais n'avait pas de pied. Il me sembla qu'il lui entrait alors dans la bouche comme un petit épi de blé, une petite grappe de raisin, mais fabriquait de la lumière, et je connus par là que la concupiscence et l'impureté subduchée étaient sorties totalement de lui. Et je vis ensuite l'ange communiquer au Père le plus haut degré et comme la plus sainte fleur de cette bénédiction que Dieu avait communiquée à Abraham et qui plus tard était devenu l'objet le plus sacré de l'Arche d'Alliance. Et il donna cette bénédiction à Joachim de la même manière, parce que c'était à peu près au même âge que dans l'autre occasion je l'ai vu donner à Zacharie. Comme Abraham l'avait reçu lui-même de l'ange, mais avec cette différence que pour Abraham, l'ange avait semblé tirer la bénédiction de lui-même, c'était Melchisédek, comme de son sein, tandis que ici, dans le Saint des Saints, l'ange, c'est l'ange Gabriel, a pris cette bénédiction dans le Saint des Saints, dans l'Arche d'Alliance. Lors de la bénédiction d'Abraham, ce fut comme si Dieu mettait en lui la grâce de cette bénédiction et bénissait par elle le père de son peuple futur, afin que les pierres dont son temple devait être bâti sortissent de lui. Lorsqu'il l'a reçu, ce fut comme si l'ange tirait du tabernacle de ce temple le symbole sacré de la bénédiction et le donnait à un prêtre pour faire de lui le vase saint dans lequel, avec lequel le ver pouvait se poser dans la conception d'une nature humaine. Il me fut révélé alors qu'avec cette bénédiction, il reçut le fruit définitif et l'accomplissement proprement dit de la bénédiction introduite dans le côté d'Abraham. La bénédiction dont devait résulter la conception immaculée de la Sainte Vierge, destinée à écraser la tête du serpent. Cette bénédiction qui a fait le mariage, la communication de cette bénédiction ad extra dans le ciel et dans le Saint des Saints vient du mariage. Et c'est pour ça qu'elle est communiquée par l'ange Gabriel à Zacharie à ce moment-là, en dernier. En dernier. Et l'ange le reconduisit ensuite dans le sanctuaire et disparut. Lui, ravi en extase, tomba sans connaissance. Les prêtres, en entrant, le trouvèrent là, le visage rayonnant d'allégresse et de joie. Ils le relevèrent avec respect, le portèrent sur un siège. Lui lavèrent le visage. Ils le fortifièrent avec un parfum, une odeur forte. Lui donnèrent à boire et firent ce qu'on fait à quelqu'un qui a perdu connaissance. C'est beau, c'est des très beaux textes. Il faut savoir ce qui se passe, ces choses qui sont merveilleuses. Maintenant, un petit peu, alors, un petit passage où elle montre Saint Jean-Baptiste quand il est enfant. Il y a mille choses sur Jean-Baptiste, mais quelques petits flashs comme ça. Je vis Jean dans le désert, s'imposer des pénitences, des mortifications de plus en plus rudes. Ça donnait la prière avec une assiduité, une ferveur toujours croissante. Et Jean, dans tout le cours de sa vie, n'a vu le Sauveur que trois fois. La première fois, ce fut dans le désert, quand la Sainte Famille passa dans son voisinage lors de la fuite en Égypte, donc il avait 22 ans. Et Jean était tout seul dans le désert. Il avait 2 ans, il était tout seul dans le désert. Il avait se débrouillé tout seul. Donc, oui, il était déjà adulte avant la naissance, si je puis dire, grâce à la bénédiction de la visitation. Je le vis à plusieurs reprises, le spectacle incroyablement touchant de Jean conduit par l'Esprit. L'Esprit Saint accourant pour saluer son Rédempteur, son Maître, son Seigneur et son Dieu, qu'il avait déjà salué dans le sein de sa mère, dans un amour qui le gonflait et qui l'attirait vers lui. Et il portait la peau de mouton jetée sur l'épaule, semblable à celle qui revêtait l'épaule d'Élie, le prophète. Rattaché autour du corps, il sentit que son sauveur était près de lui, il souffrait de la soif. Alors l'enfant pria et de son petit bâton, il frappa la terre d'où jaillit une source abondante. Jean courut en avant dans la direction que l'eau allait prendre. Il s'arrêta pour voir passer Jésus avec Marie et Joseph, puis sauta joyeusement et fit un signe avec son petit drapeau. La seconde fois qu'il vit Jésus fut lors de son baptême, la troisième fois lorsqu'il le vit passer le long du Jourdain et rendit témoignage qu'il désigna dans un grand cri qu'il était l'agneau. J'entendis une fois Jésus parler à ses apôtres du grand empire que Jean avait sur lui-même. Il dit que même du baptême, il s'était borné à la contempler pendant la cérémonie, alors que son cœur était prêt à se briser à force d'amour. Plus tard, il avait mieux aimé se retirer humblement d'auprès de Jésus que de céder à son amour et de chercher à se rapprocher de lui. Jean, continuellement, depuis la bénédiction, avant sa naissance, voyait continuellement le Seigneur en esprit. Il était constamment dans l'état prophétique. Il avait une science infuse de lumière qui permettait de rentrer dans la vision des choses. Constamment dans la vision prophétique et dans l'état prophétique. Il voyait Jésus comme l'accomplissement de sa mission, comme la raison d'être de sa vocation prophétique. Jésus n'était pas pour lui un contemporain. Et pourtant, il était contemporain. Il était tellement dans la lumière prophétique, la sainteté du ciel dans la terre, et dans l'esprit d'Élie, qu'il avait plus sa présence dans le temps d'Élie, lui, et dans le temps de l'accomplissement. Et ces deux faisaient la lumière dans laquelle il se trouvait. Et c'est pour ça qu'il est dit ceci, vous voyez. Jésus n'était pas pour lui un contemporain, un homme vivant de la même vie. C'était le Rédempteur du monde, le Fils de Dieu fait homme, l'Éternel se manifestant dans le temps. C'est pourquoi la pensée de chercher à frayer avec lui ne pouvait pas entrer dans son esprit. Mais aussi, on peut dire que Jean ne se sentait pas lui-même vivant dans le temps et dans le monde, ni mêlé aux choses de la terre comme les autres hommes. Dès le sein de sa mère, il s'était trouvé en contact avec les choses éternelles, et le Saint-Esprit avait établi entre son Rédempteur et lui des rapports qui existaient hors du temps et qui ne quittaient jamais. Il n'était pas son contemporain dans le temps. Encore enfant, il avait été enlevé au monde et son éducation livrée à des influences d'un ordre supérieur s'était faite au sein de la nature tout imprégnée de Dieu. Il était éduqué par Dieu et par le sable. Ouais, parce que le sable, vous voyez, c'était beaucoup de petits grains séparés. Puisque lui, sa fonction, c'est de faire l'unité du cœur eucharistique, mystique de Jésus. Hein? Alors le sable devient le roc. Dans le roc, tous les sables sont soudés entre eux. Encore enfant, il avait été enlevé au monde et son éducation livrée à des influences d'un ordre supérieur s'était faite au sein de la nature tout imprégnée de Dieu et au milieu du sable, du désert. Il fut cul séparé des hommes au fond des solitudes les plus reculées, ne sachant rien si ce n'est son Rédempteur. Jusqu'à ce qu'il sortît du désert comme ayant reçu une nouvelle naissance et commença son ministère au milieu des gens, toujours austère, enthousiaste, ardent, ne craignant rien, ne s'inquiétant de rien, jamais, et sans peur. On voit que l'agité maintenant était pour lui le désert. Dans la solitude, il frayait avec les sources, les rochers, les arbres, les bêtes sauvages, vivait, conversait avec eux. Et c'est de la même manière qu'il parle et qu'il agit maintenant parmi les hommes et les pêcheurs, sans penser à lui-même jamais. Il ne voit, ne connaît que Jésus, dans la lumière prophétique où il vit, comme un temps qui existe au-dessus du temps. Et il ne parle que de l'agneau, il ne parle que du Rédempteur, il ne parle que de lui. Ses discours se portent à dire, viens préparer les voies, faites pénitence, recevez, convertissez-vous, tournez-vous vers lui, voici l'agneau. Dans le désert, il était pur et innocent comme un enfant dans le ventre de sa mère. Il est resté cet enfant dans le sein de sa mère, béni par la lumière immaculée de la Vierge. Il est sorti du désert et du sein des saints pur et candide comme un enfant suspendu au sein de la mère immaculée du ciel dans la terre. Et j'entendis le Seigneur dire aux apôtres, il est pur comme un ange. Rien d'impur n'est entré dans sa bouche. Pas plus qu'un péché, une faute ou une ombre n'a pu sortir de ses lèvres. Je vis que Jean a une révélation sur le baptême et que par suite de cette révélation, un peu avant de sortir du désert, il construisit une fontaine à peu de distance des lieux habités. Avant que Jean eût commencé à creuser cette fontaine, je le vis devant sa grotte. Côté occidental d'un rocher escarpé, à sa gauche était un ruisseau, peut-être une des sources du Jourdain, qui prend naissance dans une grotte au pied du Liban, entre deux montagnes. On va y aller. On voit ce ruisseau. On voit ce ruisseau quand on est tout auprès. À sa droite était une place unie, ayant le désert de tous côtés, et c'est là que devait être la fontaine. Jean avait un genou en terre, sur l'autre il tenait un long rouleau d'écorce sur lequel il écrivait avec un roseau. Un soleil ardent brillait sur sa tête, il regardait le Liban qui était au couchant par rapport à lui. Et pendant qu'il écrivait ainsi, il fut comme frappé d'immobilité. Je le vis tout absorbé, ravi en extase. Je vis debout devant lui un homme qui, pendant son extase, écrivait et dessinait beaucoup de choses sur le rouleau. Tout ce qu'il apprenait, il l'apprenait des livres. La Torah d'Eli. Lorsque Jean revint à lui, il lut ce qui était sur le rouleau et commença à travailler à la fontaine avec beaucoup d'ardeur. Pendant qu'il travaillait, le rouleau était par terre, maintenu avec deux pierres qui le tenaient étendu. Et il y regardait souvent car tout ce qu'il avait à faire semblait être indiqué là, à l'occasion de la fontaine et de sa situation. Et je vis ce qui suit. De la vie du prophète Élie du même, le prophète s'était assis tout chagrin. C'était à cause d'une faute commise dans le désert. Il s'endormit, plein de lassitude. Alors, il vit en songe un enfant. C'est Élie qui vit en songe un enfant qu'il poussait avec un petit bâton. C'était Jean-Baptiste à l'époque. Vous voyez, c'est extraordinaire que Jean-Baptiste n'appartienne pas au temps. Et donc, avec son petit bâton, il fait une source pour l'enfant Jésus. Qui est très très soif, au milieu du désert, à la fuite en Égypte. Mais c'est un bâton, c'est un petit bâton pour ceux qui ont soif aussi avant lui, Élie. C'est pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Et c'est des choses tout à fait. C'est plus que charmant, c'est merveilleux, enfin c'est plus que merveilleux. On n'a pas besoin de lire les contes d'Andersen. Il vaut mieux lire des choses qui se sont passées en réel, en vérité et dans le concret, plutôt des rêves. Qu'il poussait avec un petit bâton et près de lui une fontaine dans laquelle il craignait de tomber parce que je le vis à la suite du coup rouler à quelques distances. L'ange le réveilla et lui donna à boire. Et cela se passait au lieu même où maintenant Jean creusait la fontaine. Il creusait la fontaine à ce moment-là. Cette fontaine qui avait jailli 888 ans avant. Et c'est très beau, je trouve. Je connus la signification des diverses couches de terre à travers lesquelles Jean creusait la fontaine à cet endroit, ce jour-là, et de tous les travaux qu'il fit pour l'achever. Tous rapportaient à la dureté et à d'autres mauvaises qualités du cœur qu'il devait, lui, vaincre chez les hommes. Chez tous les hommes. afin que la grâce du Seigneur pût agir sur eux. Il avait autorité sur les différentes couches qui empêchaient le cœur des hommes de voir que Jésus était l'agneau. C'était sa mission. Il avait autorité. Nous, comme l'agneau, on prend autorité. On prend autorité pour briser les couches. On est le nouveau Jean-Baptiste. Puisqu'on émane du mariage de Marie et Joseph dans le corps spirituel, connu dans le Saint des Saints. Oui ou non? Tous rapportaient la dureté à d'autres mauvaises qualités du cœur que lui devait vaincre chez les hommes, afin que la grâce du Seigneur pût agir sur eux. Je fus informé alors que ce travail qu'il faisait ainsi que tous les travaux, les autres, que je n'ai pas vus, et que toute sa vie, toutes ses actions étaient un symbole, une figure de ce qu'était sa mission vis-à-vis de tous les hommes. Et chacun d'entre nous. Donc merci Jean-Baptiste de nous avoir enlevé les couches. En tout cela, non seulement il était instruit par l'Esprit Saint de ce qu'il avait à faire, mais encore, il faisait réellement ce que signifiaient ses travaux. Vous voyez, il faisait un travail, il construisait un puits, il faisait un travail, mais pendant qu'il faisait ce travail, il m'a dit, tiens, voilà, il fait une forêt. En même temps, il faisait spirituellement ce que ce travail signifiait en chacun. Il fait l'unité du corps mystique de l'Église. Parce que Dieu exerçait la bonne intention qu'il y joignait dans sa vision et dans sa puissance prophétique, une simplicité, une pauvreté inénarrable. C'était le Saint-Esprit qui le poussait à tout cela, comme les prophètes. Il enleva le gazon circulairement, creusa avec beaucoup de soin et d'adresse dans le sol dur et marneux un bassin spacieux de forme ronde, qui garnit de différentes pierres exceptées au milieu, à l'endroit le plus profond où il avait creusé, jusqu'à une petite veine d'eau. C'est beau ça, symboliquement, mystiquement. De la terre qu'il avait rejetée, il fit autour du bassin un rebord où il y avait 5 coupures. Et en face de 4 de ces brèches, il planta à égale distance autour du bassin 4 tiges minces, dont le haut était couvert de feuilles vertes. Elles étaient de 4 espèces différentes et chacune signifiait quelque chose. On ne va pas s'embêter au ciel quand on va expliquer tout ça, dans son déploiement de gloire, parce que c'est centuplé, évidemment. Au milieu du bassin, il planta un arbre d'une espèce particulière, avec des feuilles effilées, des bouquets de fleurs en forme pyramidale, avec un fruit à pointe épineuse déjà Noël. Cet arbre un peu flétri avait été longtemps devant sa grotte. Les 4 tiges qui étaient alentour me semblaient être celles d'arbustes élancés qui portaient des baies. Il en entoura le pied de terre un peu exhaussé. Lorsqu'en creusant le bassin, il fut arrivé à l'eau, à l'endroit où ensuite l'arbre du milieu fut planté, il creusa une rigole allant du ruisseau qui était près de sa grotte jusqu'au bassin. Oh, que c'est plaisant tout ça, mon Dieu. Après quoi, je le vis cueillir des roseaux dans le désert, les ajuster les uns au bout des autres, conduire ainsi l'eau du ruisseau dans le bassin et recouvrir de terre ce conduit qui pouvait être fermé. Il avait pratiqué un sentier à travers les broussailles jusqu'à la brèche qui se trouvait en face dans le rebord du bassin. Ce sentier faisait le tour du bassin entre le rebord et les 4 arbres qu'il avait plantés en face des 4 coupures du rebord à la coupure qui formait l'entrée. Car qu'à la coupure qui formait l'entrée, il n'y avait pas d'arbre, de ce côté seulement. La fontaine était dégagée. Des autres côtés, elle n'était séparée des broussailles et des rochers que par le sentier qui en faisait le tour. Il planta sur les petits tertres de gazon qui étaient au pied des 4 arbres une plante qui ne m'est pas inconnue. Il y a une note qui dit que cette plante, il s'agit du Telephium purpureum, Cetum linoe, dont Catherine Emmerich en parle. Par là, comme étant un remède contre les ulcères scrofuleux intérieurs et extérieurs, spécialement au cou. Médiation. J'ai eu aussi la signification de cela. Même les arbres qu'il plantait, je me souviens d'y avoir vu figurer l'arbre du milieu. mais je l'ai oublié. Il travailla ainsi plusieurs semaines, et ce ne fut que quand il eut fini qu'une petite veine d'eau commença à sourdre au fond du bassin. L'arbre du milieu, dont les feuilles étaient flétries et noirâtres, revertit. J'en pris dans un vase fait d'un grand morceau d'écorce d'arbre et enduit de poids aux côtés de l'eau d'une autre source qu'il versa dans le bassin. Cette eau venait d'une source qui avait jailli du rocher, près d'un de ses séjours antérieurs, lorsqu'il avait frappé le rocher avec son petit bâton. J'ai oublié ce qui avait pu se passer d'important à cette occasion. Je vis ensuite que Jean descendit dans l'eau jusqu'à la ceinture, parce qu'il fit ensuite arriver du ruisseau dans le bassin autant d'eau qu'il était nécessaire. Quand il en avait surabondance, elle coulait par les ouvertures sur le sol environnant et rafraîchissait les plantes. Donc Jean descendit dans l'eau jusqu'à la ceinture, saisit d'une main l'arbre du milieu avec son bâton, qu'il avait surmonté d'une croix et d'une banderole, frappa dans l'eau de manière à la faire rejaillir au-dessus de sa tête. Et je vis que dans ce moment, il vint sur lui d'en haut une nuée lumineuse, comme une effusion du Saint-Esprit, et que deux anges parurent au bord du bassin et lui dirent quelque chose. Ce travail que je le vis faire là, était comme le dernier travail que je lui ai fait de ses mains lorsqu'il était dans le désert. Etc. J'espère que ça vous donne envie de lire Anne-Catherine Wick. C'est tout comme ça, Anne-Catherine Wick. Jean-Baptiste. C'est pour ça que c'est important pour nous, c'est vrai, ce qui va se passer avec l'avertissement, parce qu'on va retrouver cette sanctification de notre d'avant la naissance. Cette sanctification qu'il a eue d'avant la naissance, nous allons l'obtenir. C'est pas, on va reprendre et on va pouvoir redémarrer avec cette sanctification, avec cet esprit prophétique, avec cette lumière, étant dans le temps, mais tout en n'étant pas contemporain à ce temps. Parce qu'on est roi fraternel, le règne du Sacré-Cœur est arrivé, on est emporté à travers l'atmosphère. Alors il y a comme une espèce d'alliance, de pacte qu'on fait avec Jean-Baptiste, avec Élie le prophète, avec l'esprit prophétique, dès qu'on veut être prêtre et roi, et à cette royauté fraternelle, messianique du Christ Jésus notre Seigneur, elle est aussi prophétique. Regardez comme on est des barbares lorsque vous n'avez aucun esprit prophétique, ni royal, ni sacerdotal. Vous êtes des êtres rampants, quoi. Regardez par exemple la vie des étudiants. C'est terrible, si c'est que ça. C'est pas très prophétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être étudiant. Le travail qu'on fait, mais ce qui compte, c'est d'être prophète. Ce qui compte, c'est d'être aussi et avant tout ailleurs que dans ce temps dans lequel on sait. Parce qu'il faut que le travail qu'on fait, c'est un travail qui vienne de l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint, et la manière de l'Esprit Saint. Ça, c'est sous l'influence de notre amour. C'est la vie chrétienne, c'est de l'amour. Alors, si on a un amour fou pour ce qui brûle, ce qui va faire exploser, s'il ne meurt pas, on se demande comment ça se fait. Le mariage de Marie et Joseph, si on les aime, si on les aime, on rentre dans cet amour, on est dans une intimité, une complicité avec eux. On est inséparés de cette lumière, de cette force, et finalement, elle nous est communiquée. Et c'est pareil avec Jean-Baptiste. Si on l'aime, si on a beaucoup d'amour pour lui, il y a forcément, à un moment donné, un au-delà de l'unité des deux, et ça y est, on est rentré dans la vie prophétique de l'Église. C'est à cause de l'amour qu'on devient prêtre, prophète et roi. C'est C'est pas uniquement parce qu'on a mis du saint crème lorsqu'on était bébé. Saint crème, c'est vrai, c'est un sacramental. C'est que du coup, on peut savoir qu'il nous est possible, avec beaucoup d'amour, de rentrer dans l'épanouissement, ce que ce signe a été marqué. Mais non, il faut qu'on soit marqué par la bénédiction. Toujours fêté Jean-Baptiste le 24 juin parce qu'on a toujours compris, entendu que Jean-Baptiste c'est celui qui fait qu'on sort du temps. Le temps s'arrête, le soleil s'arrête. C'est le jour où le soleil s'arrête. Hein. Le 24 juin. Il s'arrête une seconde fois, c'est le 24 décembre. Solstice d'été, solstice d'hiver. Et on a toujours compris que Jean-Baptiste, c'est l'esprit prophétique, nous sort du temps et nous met dans le temps et fait retourner le temps dans une autre direction. C'est ça ce que fait l'amour. L'effacement, la disparition de la nullité des dieux.